Musique, c'est l'heure de jouer.
Et c'est l'heure de jouer. Aujourd'hui, on va jouer à Momiji. Les Japonais raffolent des paysages aux couleurs changeantes et consacrent des parcs entiers dans toutes les villes à ces arbres et leurs feuilles qui vont rougir en automne, notamment les érables. L'un des plus connus est le Momiji. L'auteur de Tang Garden, Francesco Testini, accompagné de Dario Massarenti, nous propose un jeu poétique, Momiji, où vous allez devoir recréer des paysages japonais. Alors Momiji, édité par Silets, est un jeu où il faut collectionner les plus belles feuilles d'automne, les plus précieuses du célèbre jardin impérial du Japon, tout en tirant le meilleur parti de leur capacité paysagère. Alors pendant leur tour, les joueurs jouent des cartes feuilles aux côtés de cartes spéciales puissance du paysage pour créer des panoramas uniques, gagner des jetons de l'an et remplir des objectifs pour obtenir des points de victoire. Alors selon le nombre de joueurs, on ne jouera pas avec toutes les feuilles. En début de partie, on va recevoir 6 cartes feuilles et 3 cartes paysage. Alors attention, parce qu'à la fin de notre tour, on ne peut jamais avoir plus de 8 cartes feuilles dans sa main. Mais justement, comment on joue? Eh bien pendant son tour, on ne pourra faire qu'une action parmi 3. Alors soit on prend des cartes feuilles posées sur la table, soit on pose des cartes feuilles devant nous, ou on active un jeton objectif. En plus de faire l'une de ces 3 actions, à tout moment, vous pouvez défausser 2 cartes pour obtenir un jeton de l'an. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser un pouvoir de votre paysage en plaçant un jeton de l'an dessus. Je vous le dis tout de suite, le de l'an est très important dans le jeu. Plus vous en avez, et plus vous pourrez faire d'actions. Revenons donc sur ces 3 actions. Alors quand vous décidez de prendre des cartes feuilles, vous devez prendre une colonne complète de feuilles. Vous prenez toutes les feuilles de la même couleur. Mais vous savez quoi? Si vous voulez plus de feuilles avant de prendre une colonne, vous pouvez défausser un jeton de l'an pour rajouter 4 nouvelles cartes feuilles dans la sélection. Alors ces cartes feuilles, vous allez les avoir dans votre main, donc autre action possible, à les poser devant soi. Mais attention, pas n'importe comment, déjà. Soit vous posez des feuilles de la même couleur, c'est 2 maximum, soit 2 couleurs différentes, mais dans ce cas, là, une de chaque seulement. Et c'est pas tout, on commence toujours une pile par le chiffre 0. Et sur cette pile, on peut poser des cartes de valeur identique ou juste supérieure. On peut mettre donc un 0 sur un 0, un 1 sur un 0, mais pas un 2 ou un 3. Et à partir du moment où vous mettez un 3, vous ne pouvez plus ajouter de nouvelles cartes. Sur ces cartes, vous allez mettre un jeton Tori. Alors un Tori, c'est un portail traditionnel japonais. Il est là pour séparer l'enceinte sacrée de l'environnement profane. Un petit peu d'histoire japonaise, de toute façon, ça ne fait pas de mal. Alors sur vos cartes, en bas, vous avez des glands, ceux du chêne bien sûr. Et si deux glands se touchent, quand vous jouez des cartes feuilles de couleurs différentes, ça vous donne 2 jetons de glands en plus. Réfléchissez bien donc quand vous posez vos cartes. Enfin, la dernière action possible, c'est d'activer un jeton objectif. Et comment on fait d'après vous? En payant des glands bien sûr. 3 exactement, cet objectif est disponible pour tout le monde, mais vous en êtes le propriétaire et ça change tout au niveau des points en fin de partie. Alors exemple, l'un des objectifs sera d'obtenir le plus de cartes feuilles vertes. Vous avez acheté cet objectif et vous êtes le joueur à avoir le plus de cartes vertes. Vous marquez 10 points. Si vous n'avez pas réussi cet objectif, le joueur qui l'a fait obtiendra lui 3 points seulement car il n'est pas le propriétaire de l'objectif. La partie s'arrête dès qu'il n'y a plus de cartes feuilles dans la pioche ou qu'il n'y a plus de jetons Tori disponibles. Dans Momiji, il faut bien réfléchir par rapport à son jeu avant de choisir un objectif, mais il faut aussi regarder les jeux de vos adversaires, compter les cartes, les pouvoirs de vos paysages pourront par exemple vous permettre de réorganiser vos piles. Et puis ce qui compte également dans le décompte des points, ce sont les piles de cartes devant vous. Vous multipliez le nombre de cartes d'une pile par sa valeur la plus haute. Vous avez 4 cartes, le 2 est la valeur la plus haute d'une pile, ça vous fait donc 8 points. Les jetons de l'an vous rapportent également des points. Celui qui a le plus de points est le vainqueur. Il existe un mode solo que je vous laisserai découvrir. Alors Momiji nous fait changer de saison en revenant à l'automne, en nous faisant voyager à travers les jardins japonais. Un jeu de collection poétique pour toute la famille. Un véritable petit coup de cœur en ce début d'année. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Vianney de Terre de Jeux à Rennes pour parler des Cellulite d'or catégorie jeunesse.
J'espère.
Cellulite, votre émission sur les jeux de société.
Et comme tous les jours depuis une semaine, c'est l'heure de retrouver Vianney. Non, c'est vrai, hier t'étais en pause.
Salut Mathieu, salut à tous et toutes.
Salut Vianney. Alors aujourd'hui, on va parler des Céludiques d'or de catégorie jeunesse. Tu vois, j'en perds mes mots. Est-ce qu'on peut rappeler les jeux qui sont nommés dans cette catégorie, Vianney ?
Carrément, on peut carrément rappeler les jeux qui sont nommés dans cette catégorie. Par contre, je vais avoir besoin de ton aide sur 2-3 trucs. J'ai pas de mémo en face de moi.
D'accord.
Je suis désolé, je connais pas par cœur les auteurs et autrices des jeux.
Alors attends,
j'ai le renard. Et je vais compter sur toi pour me récupérer dans une minute. Il y aura Pas vu, pas pris, qui est de Phil Viscaro et un autre auteur dont j'ai oublié le nom et que tu me rappelleras après. Et il y a en dernier Unlock Kids, qui a été développé par Spaceco et adapté du jeu Unlock de Cyril Demegde.
C'est voilà. Ça. Et puis donc c'est Wilfried et Marie Faure hein, qui ont fait le Unlock Kids.
Ouais, tout à fait.
Alors, Dali le renard, hop, je me connecte le plus rapidement possible. Ah, c'est du live, hein. Alors, l'auteur de Dali le renard, c'est Vincent Bonnard.
Voilà, merci Vincent Bonnard pour ce jeu.
Avec des illustrations de Cyril Bouquet et Yann Parovel.
Parfait.
Et puis donc, pas vu, pas pris, tu as dit déjà une partie quand même.
Phil Viscaro et...
Et Amine Ramani.
Ah, je l'avais, j'ai pas voulu dire de bêtises du
tu
coup.
Tu vois, avec...
Okay, très bien.
Et l'illustrateur, tu sais qui c'est ?
Non.
Sylvain Aublin. Et donc, c'est chez Leteia. Et Dali le renard, c'est chez Tiki Édition. Voilà, on a tout dit.
Tout à fait.
Alors, on commence par Dali le renard.
Bah ouais, on commence par Dali le renard, parce qu'on a pris l'habitude de dire les jeux par ordre alphabétique pour laisser un peu de suspense sur l'éventuel vainqueur.
C'est ça.
Dali le renard, du coup, c'est un petit jeu jouable à partir, si ma mémoire est bonne, sur la boîte de 5 ans.
Ouais.
On est sur un petit jeu de dés et de prise de risque, où le but va être, en gros, de jeter ses dés et de garder des dés pour faire des collections de dés de même couleur. Le but étant de réussir à choper des œufs dans un poulailler. Tout le principe repose sur la mécanique principale, en fait, qui est celle, pour ceux qui connaissent, de Picomino, mais adaptée pour les petits-enfants.
Ouais.
Donc d'avoir de gérer à chaque fois cette mécanique dont le principe est de s'arrêter pour sauvegarder ce que l'on a fait, mais en ayant peut-être un résultat qui ne nous va pas très très bien et en espérant peut-être mieux, ou de continuer pour avoir un meilleur résultat, mais au risque de perdre et que ça se passe pas bien. Donc ça, c'est la petite mécanique sympa qui a été adaptée pour les plus jeunes. C'est très réussi, ça fonctionne très bien, l'édition est super jolie. Il y a un côté où on se projette tout de suite dans le jeu. C'est hyper intelligent.
Ouais, et puis ce qui est aussi original, c'est la boîte finalement, parce que la boîte, on l'ouvre et puis ça y est, on peut jouer quoi.
Ouais, complètement. C'est la scénographie du jeu est vraiment super réussie.
Ouais, avec c'est franchement sympa. Et pour les petits, en tout cas, pour apprendre les couleurs, c'est parfait.
Carrément.
On va passer maintenant à
Pas vu, pas pris.
Donc là, c'est pour les un petit peu plus grands.
Ouais, carrément. Sur la boîte, si ma mémoire est bonne, on est sur du 7 ou du 8 ans.
C'est ça, du 8 ans.
On est quand même sur un âge qui est annoncé sur la boîte qui est large, je trouve.
Oui, moi aussi.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un adulte autour de la table qui est capable d'expliquer les règles à un enfant qui est apte à jouer à des jeux de société depuis quelques années... Dès 6 ans, il comprend le principe.
Ouais, il saura où cacher son fantôme, ça c'est sûr.
C'est aussi pour ça, je pense, qu'on a tous ça nous a paru logique de le mettre dans cette catégorie-là. Mmh. C'est que c'est vraiment un jeu familial et qui cartonne avec les enfants. On parlait de scénographie à l'instant. Tout le principe de Pas vu, pas pris, c'est vraiment de jouer sur cette fameuse scénographie, puisqu'en fait, c'est un jeu de plateau sur lequel il y a des petits fantômes qui vont se balader. Chacun a ses fantômes à sa couleur. On essaye de leur faire traverser le plateau, mais en passant sur ce plateau, il va falloir les cacher, les dissimuler. Il y a un petit côté 1, 2, 3 soleil cache-cache sur un plateau. Il y a des objets en 3D qui symbolisent donc le mobilier d'un hôtel, donc des bureaux, des passe-plats, choses comme ça, d'un canapé. L'idée étant qu'à la fin d'un tour, les joueurs vont essayer de cacher les fantômes sur la case sur laquelle ils sont. Donc s'il y a un objet, on en profite pour essayer de le dissimuler. Et l'un des joueurs ou des joueuses va regarder à travers une petite serrure qui sera mise sur un côté du plateau pour voir s'il aperçoit des fantômes. Tous les fantômes qu'il aperçoit, un peu comme un 2-3 soleil ou cache-cache, ils retournent au poulailler, ils retournent au départ, et malheureusement, ils n'iront pas jusqu'au bout.
Il ne faut pas être de mauvaise foi, hein, attention.
Ouais, mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est rigolo, on va tous passer, regarder, dire « Attends,
ah mais non, ouais, c'est ça. Ah mais là, tu t'es mis de travers par rapport à la serrure.
Ouais, carrément, c'est vraiment super. Enfin, ça, ce jeu-là fonctionne vraiment sur cet effet de matériel et éditorial et waouh. Il y a des super objets en 3D, on regarde, ils sont cachés, machin. Et moi, grand enfant, ça marche à 100% avec moi et avec des enfants, mais c'est extraordinaire, quoi. Les yeux qui pétillent, c'est trop cool.
Donc ça, c'est pas vu, pas pris. Et le troisième jeu nommé.
Donc le troisième jeu nommé, c'est Unlock Kids. On peut présenter rapidement Unlock puisqu'il s'agit d'un dérivé de Unlock adapté pour les plus jeunes. Il est conseillé sur la boîte à partir de 7 ans. Et effectivement, je pense qu'en dessous, ça peut être compliqué en termes de réflexion. Mais après, encore une fois, accompagné, pourquoi pas. L'idée, en gros, c'est donc d'adapter le genre du point and click en jeu vidéo sur un jeu de société. Plus vulgairement, on aime bien aussi parler des escape games, puisque les escape games sont dérivés de ce concept-là. Et donc, en gros, le concept, c'est de proposer différentes histoires, différentes aventures, dans lesquelles les joueurs et les joueuses vont, en totale coopération, faire des choix différents sur par où aller, machin, etc. Sauf que la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'embranchement, on a une histoire linéaire, et il va falloir résoudre des énigmes, résoudre des petites choses, essayer de retrouver l'œuf de la poule dans le poulailler, pour reprendre un petit scénario de la boîte de base. De Unlock Kids, l'idée étant de parcourir l'aventure qu'on nous propose. Dans cette boîte-là, il y a 6 scénarios, puisque chaque scénario a deux manières de jouer, ce qui est extrêmement conséquent en termes de contenu. C'est assez impressionnant, même par rapport à Unlock, qui a l'habitude de nous en proposer que, entre guillemets, 3, ce qui est déjà énorme. Et donc, voilà, on va se balader dans une histoire interactive, adaptée pour les plus jeunes d'entre nous. Donc, c'est la licence à succès, c'est une des meilleures ventes de jeux de société en France depuis qu'il est sorti. Ils en sont au 10e opus pour la version adulte. Donc voilà, ouais, on est sur du solide.
Ça cartonne, effectivement. Eh bien, c'est le moment de dévoiler le vainqueur. Attention, tu connais maintenant la petite musique. Hein.
Mais attention, roulement de tambour.
Et le vainqueur est...
Unlock Kids de Frédéric Marifort, adapté du jeu à succès Unlock de Cyril Demeg.
Unlock Kids, exactement. Alors, avant de donner mon avis par rapport à pourquoi Unlock Kids a été élu, et on peut le dire, dans les Céludites d'or, il y a eu... c'est celui qui a récolté le plus de points depuis tous les Céludites d'or. Je te propose d'écouter Johan, qui va nous en parler d'Unlock Kids et qui nous dit pourquoi c'est son jeu préféré. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors Johan, on vient de jouer à quoi?
Unlock Kids, c'est trop bien.
Ah bon, déjà on commence par c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans Unlock Kids?
Déjà, c'est le meilleur jeu que j'ai jamais joué. En fait, c'est trop bien parce que sans téléphone, c'est beaucoup mieux. Et du coup, maintenant, il y a des codes. Il y a des jetons en carton et on peut les retourner. Et ça nous donne un truc pour faire les codes ou un truc comme ça. Et après, sur les cartes, il y a aussi les nombres cachés. Celui qu'on vient de faire, on l'a trouvé.
Il y a plusieurs aventures. Alors, comment
oui,
ça se passe?
Oui,
on a fait combien d'aventures?
Il y a 6 aventures.
Et alors, dans ces 6 aventures, il y en a une que t'as préférée?
Ah bah oui, c'est la dernière.
La dernière, on était où alors?
On était dans un parc d'attractions on prend des tickets.
Ouais.
Et il faut aller dans les attractions, par exemple, il y avait des dinosaures.
D'accord.
Des zombies.
Ouais, bon, on va pas en dire plus peut-être.
Oui, sinon, parce que sinon celui qui va voir, il va le remettre pour écouter, il va tricher quoi.
Ah non, quand même pas, tu crois qu'il va tricher?
Bah oui.
Est-ce que tu trouves que ce Unlock est bien fait pour les enfants?
Ah oui, mais il est quand même assez dur hein.
Ah bon? Qu'est-ce que t'as...
Oui, il est dur aussi hein.
Parce qu'il faut trouver quoi pour gagner?
Bah, des nombres cachés.
Et ces nombres cachés, ça te permet de gagner quoi, alors?
Des étoiles. Et on a eu toutes les étoiles sur le dernier.
Bravo, Johan.
Oui, aussi toi, hein, bravo.
Bah, merci. Forcément, je l'ai aidé, hein. Je l'ai aidé un peu. Je l'ai aidé. À vrai dire, non, je le laissais faire, mais bon, je m'occupais des cartes, je lui donnais les trucs, quoi.
C'est merveilleux, ça, comme retour. C'est trop bien d'avoir un enfant qui explique pourquoi Unlock Kids a pu éventuellement gagner un prix. C'est trop bien.
Ouais, et puis, moi, je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose, comme il dit, hein, Yoa, c'est sans téléphone. Et à l'heure où les écrans sont dans les familles, je pense que c'est ça la grande force d'Unlock. Ils ont réussi finalement à garder l'esprit Unlock avec un système de symboles. Et puis on le sait, hein, quand on prend Wilfried et Marifort pour un jeu enfant, en général, ça passe. Hein.
Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est plus des... On peut plus, je pense qu'on peut plus les considérer comme un duo d'auteurs lambda. Ils ont été tellement primés, ils ont eu tellement de récompenses, ils ont tellement fait de jeux pour ce public-là que je pense que mondialement, ils sont reconnus comme étant des experts de ce type de jeu. Je sais qu'ils aimeraient pas qu'on me dise ça à l'antenne parce qu'ils sont très modestes et qu'ils ont du mal avec cette image qu'ils ont. Mais c'est, enfin, pour moi, voilà, s'il y a des auteurs à succès, la preuve, c'est quand t'adaptes un des plus grands succès en France et même dans le monde de jeux de société pour les enfants, tu vas chercher Wilfried et Marie-Fort.
Mais c'est King ça.
Domino, ouais. Ils ont fait Dragomino, Unlock Kids.
C'est quoi le prochain alors?
On attend tous le prochain jeu. Et c'est vrai qu'ils sont extraordinairement doués en game design.
Ouais, non, franchement, c'est top. Et puis, les illustrations sont sympas. Enfin, ce qui s'annonce, en tout cas, moi, j'avais eu Spaceco, j'avais eu Anna de Spaceco, et elle nous a promis un nouveau Unlock Kids, donc pour septembre l'année prochaine. L'année prochaine, non, en 2022, hein, puisque c'est vrai que.
Oui, cette année.
C'est cette année. Leur but, c'est d'en sortir un par an.
Ouais, faut juste espérer qu'ils arrivent à pas se faire attraper par cette espèce de faux rythme où on se sent obligé de sortir des boîtes régulièrement. On sait que ça a joué des tours à Unlock à un moment précis de la gamme, à son démarrage, où c'était pas facile en fait de garder un contenu de qualité en ayant un rythme aussi soutenu. Donc faut espérer qu'ils se fassent pas manger par ça, parce qu'on préfère tous avoir une boîte tous les deux ans extraordinaire qu'une boîte tous les ans mais qui soit moins bien.
C'est sûr. Bah merci beaucoup Vianney, on se retrouve donc cette fois-ci jeudi prochain, hein ? Jeudi prochain.
ou pas, on verra.
c'est
ce qu'on a prévu.
C'est ce qu'on a prévu jeudi prochain pour cette nouvelle rubrique qui s'appelle Rétroludique, dont tu nous parleras d'un jeu qui a un peu plus de bouteilles, quoi, on va dire, pas une nouveauté.
Ouais, exactement. Et on essaiera de se demander, je sais pas, si ça a marché, pas marché.
Voilà.
Et pourquoi, voilà. Ça va être rigolo, on va essayer de faire ça.
Ça marche, merci, salut Vianney.
Passez une belle journée, merci, salut à toutes et tous.
Au revoir.